The way things are isn't the way they have to be.
But knowing what to challenge and how to change it isn't always clear.
That's why independent journalism has never mattered more.
When we are free to follow any lead
and question any authority,
we can confront the status quo,
uncover vital alternatives,
and bring clarity to the world's most complex issues.
We can help our readers understand the world.
So together, we can fight for a better one. Hope is power.
And with your support,
you'll always find it
at The Guardian.
Vous écoutez RMC. RMC.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
Yes, it is the afterfoot avec Ludovico Bragnac, Jonathan McCardio. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Fred Hermel, Simone Rovera arrivent. Ils sont dans les stands. On déroule le fil de la Ligue 1. Julien Laurence sera avec nous pour parler notamment de Liverpool qui enchaîne. Incroyable Liverpool, 8 matchs, 8 victoires en Première Ligue.
Donc on parle plus de Bordeaux, là. Fini.
Attends, je tease la suite de l'émission.
Est-ce que
attention,
on a un Ludo en tension. Ça me rappelle son époque bordelaise quand il prenait un coup et qu'il attrapait le gars.
Ça pour un mec qui ne s'est pas envoyé un direct.
Je l'insultais parce qu'il prenait des jaunes parfois parce qu'il pétait un plomb.
Est-ce qu'on est sûr que toutes les drôles de dames là, ce dont elles vont nous parler, c'était mieux que la soirée qu'on a vécue de Ligue 1? Parce que franchement, ce soir, c'était bien.
Sincèrement, on vit depuis le début de la saison des bons samedis soirs.
Oui, il faut le dire. Vrai.
Parce qu'il y a beaucoup de prétendants maintenant aux places européennes.
Et avec beaucoup de buts.
Des Nantes, des Nice, des Bordeaux, des Montpellier. Exactement. Et des buts également. Énormément de buts, j'ai pas fait le compte, mais on va le faire.
Parce que on le dit souvent quand ça va pas, mais là, faut dire cette année, c'est pas mal.
Sauf qu'il y a aussi des situations un petit peu plus compliquées pour certains clubs. On pense à Toulouse. Ah. On est avec Thomas, supporter du TFC, du TEF, qui est avec nous. Salut Thomas.
Salut les gars.
Salut Thomas.
Bon, alors, rien de dramatique pour l'instant en classement pour Toulouse, Thomas. Hein. Toulouse est 16e de Ligue 1, 9 points en 9 journées. Évidemment, c'est un bilan très moyen, mais qui ressemble au bilan toulousain ces dernières saisons. Comment tu te sens, toi, ce soir, après cette défaite?
Je me sens autant plus que si j'ai été trompé par ma copine, quoi. C'est catastrophique. C'est un temps de match. Tout est catastrophique. On joue un quart d'heure par week-end. Est-ce que vous en rendez compte? Un quart d'heure par week-end, quand vous jouez contre Metz et tout, vous pouvez ramener un point, mais quand vous jouez contre Bordeaux, eh bien, vous prenez une tannée. Et là, ce soir-là, encore une fois, j'espère qu'il y avait M. Olivier Sadra, c'est ça qui était là.
Très discret, là, ça, on l'entend plus beaucoup. Ouais.
Tout ce qui s'est passé, quoi.
Ouais, je comprends pas.
Parce que dingue, Toulouse qui prend tous ses buts en début de match. Ouais. Hein, début de la saison.
Je comprends pas, parce que quand tu regardes les noms des joueurs qui sont alignés dans l'once de départ, ouais, je te vois faire la moue, Nico, mais c'est quand même pas dégueulasse. T'as quand même le petit Koulouris qui est une belle découverte, Maxime Agradel qui est un très bon joueur de Ligue 1, t'as quand même Wesley Saïd qui, bon, on pense qu'on en veut, mais c'est quand même un joueur qui est technique. Au milieu de terrain, William Vainqueur avait montré des belles choses.
Non,
en termes de stabilisation. Je pense que le problème, c'est Casanova. Qu'est-ce qu'il fait avec son équipe? Quel est son projet de jeu? Comment il fait jouer son équipe? Je suis désolé. Le groupe de joueurs n'est pas si dégueulasse à Toulouse.
Moi, je veux bien, je l'entends. Mais... Ok. Est-ce que tu peux me permettre juste deux secondes? Je voulais. Il y a un truc qui résume cette soirée. On peut éventuellement parler d'Alain Casanova, hein, forcément. Il est remis en question par rapport aux résultats. Mais quand tu entames le match dans un derby, enfin, qui est considéré comme le derby de la Garonne, et que tu prends un but au bout de 20 secondes,
56
et quand, ou 50 secondes et quand deuxième et que tu rattaques la deuxième période avec exactement la même action au bout de 30 secondes qui aurait pu faire but à nouveau, bah, et tu peux pas exclure que les joueurs ils y sont pas non plus.
Et qui n'écoute
pas forcément le coach sur un derby. Tu viens d'aller arracher un point à Metz qui est miraculeux. Ce point, tu es d'accord avec moi?
Oui.
De partout dans les arrêts.
Il est miraculeux ce point.
16e.
Tu te dis il y a le derby qui arrive. T'es à domicile, tu vas attaquer le match tambour battant.
Avec une dimension un peu émotionnelle aussi, symbolique par rapport à Bristaton. Il voulait rendre hommage.
Ouais, mais bien sûr. Mais c'est comment tu prends le but? Au bout de 50 secondes, ton équipe, elle est coupée en deux. Tu joues Bordeaux, je crois, sur la contre-attaque. Ils jouent un 4 contre 2 ou un 4 contre 3.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça?
C'est ça. Et puis, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Mais c'est ça. Mais Ludo, c'est toi, là?
Ouais,
c'est Ludo Bragnac qui est là ce soir.
Vas-y. Tu veux pas lancer ta carrière d'entraîneur, là?
Ouais, j'aimerais bien.
Tu veux pas venir au TFC, là, s'il te plaît?
Non, mais j'ai pas.
Parce que tu feras mieux que celui qui est en ce moment, là. C'est pas compliqué, quoi. Non, mais je sais pas ce qu'il doit se dire dans les vestiaires. Je sais pas s'il arrive à me remobiliser une équipe. Je ne sais pas cet homme ce qu'il est. Mais là, il a un peu d'amour propre. Et s'il aime le club, mais qu'il le quitte. à un moment donné. C'est pitoyable. Il n'y a pas de fin de jeu. Ouais. Ça fait, ouais. L'an dernier, on a dit que c'est une saison de transition. Mais on est toujours en transition depuis l'an dernier, quoi.
Thomas, tu en penses quoi, toi, du groupe de joueurs qui est à ta disposition?
Il y a, pour moi, il y a une bonne équipe. Il y a des choses à faire. D'accord, il y a quelques blessés derrière. Je suis d'accord. Là, il a peut-être une excuse. Mais l'animation offensive au milieu, on se fait manger. On ne met pas le pied. On est des débutants.
C'est vrai.
On met pas le pied. À un moment donné, le troisième but, ils font une faute dans le camp bordelais. On prend pas ce troisième but. Non, on est là, on les regarde jouer. Ah, ça, on regarde. Ça, oui. Et on joue un quart d'heure par week-end. Comment vous voulez gagner un match? Comment?
T'as
on
pas va tort.
Jouer maintien encore cette année.
C'est vrai voilà. qu'on est triste pour le TFC. Ouais.
J'ai mal pour mon club. Je supporte ce club depuis 20-25 ans. Peut-être mon père m'a amené au stade. Je vois des gamins venir au stade. Mais le pauvre père, mais qu'est-ce qu'il dit à son gamin? Il va plus vouloir venir.
Mais qu'est-ce que ce gamin, même s'il a 10 ans, il a rien vu à Toulouse quasiment depuis des années, à part un beau maintien avec Bodiger à l'époque. Mais en termes d'émotion, qu'est-ce que t'offres à Toulouse depuis plusieurs saisons? C'est partie des clubs qui malheureusement n'offrent que très peu d'émotions et qui luttent chaque année, mais qui arrivent à se maintenir. Merci Thomas d'avoir appelé au 30.
Thomas.
Écoutez, merci à vous. Merci
salut à vous. Thomas et bon courage.
Oui, bon courage. Hein. Tu peux rester, on va t'offrir un maillot de l'after.
Ouais.
Ne raccroche pas.
Mais tu sais, Thomas, je vais être un peu cynique, mais Toulouse frôle la descente depuis presque 2 ans. Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'on souhaiterait pas presque au TFC?
Mais qui arrive
un accident pour qu'il se passe quelque chose. Parce que ce club est dans l'anonymat complet. Oui. Il traverse les saisons, on n'en parle jamais, il ne se passe jamais rien.
On en parle à la 37e pour le maintien.
Il ne se passe jamais rien.
Paris, on va pas s'attendre trop sur le PSG qui s'est imposé 4-0 face à Angers. Bon, c'était le choc.
Donc on peut revenir sur Bordeaux.
Mais Bordeaux, ça suffit. Tu veux rajouter un mot sur Bordeaux?
Mais non, mais.
Tu t'es fait attaquer.
Non,
30 secondes.
Putain, il est susceptible.
Oui, mais il est susceptible.
Non, je veux juste qu'on m'explique. Certains, donc quand par exemple les Girondins, ils ont joué contre Metz, puisque moi je suis ancien Messin et ancien Girondin, donc j'ai regardé ce match-là.
Mais non, t'étais au bar, je me rappelle.
Avec beaucoup de délectation. Qu'on m'explique quand tu joues à 4 derrière et qu'on me dit qu'on. Donc Bordeaux joue à 4 derrière en phase défensive, mais 3 en phase offensive. Donc expliquez-moi qui de Koscielny, Jovanovic s'intègre dans le milieu de terrain pour jouer sentinelle, ou est-ce que Pablo qui jouait à gauche ce jour-là venait dans un milieu à 3, ou Kouateng? Je sais pas, expliquez-moi parce que comme je connais pas très bien le football, j'ai besoin qu'on m'explique.
Ouais, donc, ni Pablo ni Kouateng ne peuvent jouer plus haut au milieu de terrain.
Expliquez-moi s'il vous plaît. Parce que si on considère qu'un latéral qui monte, il intègre le milieu de terrain et du coup,
ni Pablo ni Kouateng ne peuvent le faire.
Allez, messieurs, on va pas faire le match de Bordeaux, en tout cas la saison, on en reparlera plus tard, bien sûr. Tiens, messieurs, avant qu'on bascule sur le foot étranger.
Dijon
20 secondes, je vous donne la folie.
C'est juste pour dire que Strasbourg, oui, effectivement, c'est très inquiétant et qu'il faut vite qu'ils se remettent la tête à l'endroit parce qu'ils ont le syndrome typique de l'équipe qui a repris très tôt la saison, qui a eu les matchs de phase de poule. Et je suis inquiet pour Strasbourg,
c'est
même si c'est une équipe qu'on aime tous.
Mais bon, ils vont se maintenir.
Ils vont se maintenir. Tu peux considérer qu'à domicile, ils vont quand même prendre un paquet de points.
Ouais. Je voulais juste vous rappeler cette information, une des informations de la journée, le forfait du Golioris pour le rassemblement de l'équipe de France qui débute lundi avec La Fontaine pour le match face à l'Islande. Face à la Turquie, c'est une semaine importante pour la qualification pour l'Euro 2020. Luxation du coude pour Hugo Lloris dès la 3e minute dans le match Brighton-Tottenham. Sorti sur civière à l'hôpital, il est finalement pu quitter l'hôpital dans la soirée. On parle de 1 mois et demi à 3 mois minimum avant de revenir sur les terrains pour lui.
Toi qui as l'habitude de te servir de tes bras et qui est dans les sports de combat, est-ce qu'une luxation c'est pire qu'une fracture?
Je l'ai eu à l'épaule et j'aurais préféré me casser l'épaule. Parce que tu mets plus de temps à récupérer, la rééducation elle est plus pénible, mais 1 mois et demi, ça me semble être très très optimiste, hein. Mais oui,
1 mois et demi, 3 mois.
Du moins, à l'épaule, c'est ce qu'on dit, hein. Vaut mieux se casser l'épaule que de se la luxer.
Lloris qui, a quitté les siens à 0-0, il est fautif sur le but de Brighton.
Je sais pas.
Encore une bourde du Lloris.
Non, mais c'est même pas une bourde, je sais pas, il a un appui bizarre arrière. Il capte le ballon normalement et quand il va reposer sa jambe arrière, il y a un bug et du coup il essaye de se rattraper en tombant en arrière avec son bras. Et c'est vrai que l'image elle est terrible.
Et qui c'est qui va jouer en équipe de France? Steve Mandanda.
Mac Maignan a été appelé pour suppléer donc Hugo Lloris forfait pour les deux matchs contre l'Islande et la Turquie. Effectivement, ce sera Mandanda qui avait déjà été annoncé.
Phénoméno.
Vous êtes annoncé en tant que numéro 2, qui sera donc numéro 1 sur ces deux confrontations, Islande-France et France-Turquie, qu'on ira sur RMC, bien sûr.
T'imagines en milieu de saison dernière, si on t'avait dit que Mandanda reviendrait numéro 1 en équipe de France.
Mais c'est ça qui est beau.
Appelé pour la première fois depuis mars dernier, Mandanda. Paris, 4-0 face à Angers. Sarabia, Icardi, Gay, Neymar. Messieurs, tiens, on va la faire, votre taulier de ce match-là. Ok.
Si Thiago Silva.
Moi, je mets Sarabia, messieurs. Un but, une passe. C'est la semaine de Sarabia.
J'ai trouvé Verratti très bon. Alors, il est peut-être moins influent dans, tu sais, ce qui faisait sa qualité au début, tu sais, ses petites passes lobées, ses dernières passes, tu sais, qui transperçaient une défense ou qui lobaient toute une défense. Il le fait un peu moins. Mais dans la récupération du ballon et dans l'activité, je trouve qu'il est exemplaire depuis un certain moment. Peut-être que l'arrivée de Gay lui faut aussi le plus grand bien et qu'il est obligé de se mettre au diapason. J'ai trouvé qu'il avait rayonné sur le milieu de terrain.
On me reprend, mais Sarabia, c'est un but, deux passes ce soir, plus la passe à Istanbul pour la victoire sur le terrain de Galatasaray. On est peut-être en train de retrouver le Sarabia en impact player ce soir avec le PSG. Le PSG qui s'impose 4-0, qui est en tête avec 21 points sur 27 possibles. Est-ce la meilleure, selon toi, Jonathan, prestation du PSG cette saison
en
Ligue 1?
En Ligue 1, je pense que c'est un de leurs meilleurs matchs, ouais, parce que c'était abouti de A à Z. J'ai bien aimé le milieu de terrain aussi dans son ensemble avec Paredes, Verratti et Gay. Je trouve que ça avait fière allure, du moins pour la Ligue 1. J'ai bien aimé aussi les déplacements et le comportement en général de Mauro Icardi. Alors on sait que il a pas forcément il y a eu des rumeurs qui étaient avérées qu'il avait pas forcément été très bien accueilli au sein du vestiaire, notamment par Di Maria et Paredes. Donc de le voir comme ça volontaire, avec l'envie de s'imposer au Paris Saint-Germain, que le club lève son option d'achat, j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis voilà, le couteau suisse Herrera qui a dépanné, hein, qui a, j'ai trouvé plutôt correct.
Coéquipier modèle, je pense.
Ouais, plutôt
pas
correct.
Un bleu que l'autre, toujours là pour la tâche et pour bosser. Ander Herrera qui a joué en latéral.
Encore une fois, Neymar a marqué, donc voilà. Enfin, c'est une équipe qui, c'est l'équipe a bien tourné. Après, ça demande confirmation parce que franchement, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi bons en Ligue 1.
Angers, c'est bizarre hein, quand même. Hein.
Pourquoi?
Bizarre, oui et non. Deuxième de Ligue 1, ok, avant cette journée, plutôt solide. 6 buts face à Lyon, 4 ce soir face au PSG.
Attends.
Ils ont forcément.
On remet le contexte face à Lyon.
C'est plus que vous Angers, finalement.
On remet le contexte face à Lyon. Le départ de Reina Delaïne dans la semaine. Ils arrivent à Gerland avec beaucoup de blessés.
Moi, j'étais déçu. Je m'attendais qu'à mettre une position, les gars. Bah, vous mentir. Je me suis dit, Angers vient solide, avec des convictions dans le jeu et tactiquement. Et ils ont rien proposé.
Ils ont eu deux occasions en première.
Je crois qu'ils ont été un peu pris de court. Ils ont dû forcément observer comment le Paris Saint-Germain était prenable au Parc. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin. Tu allais regarder ce que Reims avait fait. Donc, ils se sont calqués exactement sur ce que Reims avait fait, c'est-à-dire un bloc bas et d'essayer de partir très rapidement en contre, de sortir très vite. Or, tu prends un but beaucoup trop tôt dans la partie, et notamment ton but, il est largement évitable, puisque Sarabia, il arrive au milieu de trois défenseurs, tout le monde recule, se regarde, et c'est ça qui tue un peu la tactique de d'Angers. Ouais. À partir de là, quand tu cours derrière le score au Parc, bah, quand t'es mené, il se passe autre chose. C'est-à-dire que tu te mets en position de, il y a ce rapport dominant-dominé qui s'installe. Et le Paris Saint-Germain, lorsqu'il est dominant, eh bah, il est brillant. Mais il est brillant parce qu'il arrive à trouver les solutions dans les petits espaces. Il arrive à trouver les décalages constamment. Et c'est sûr que
David nous a demandé, le taulier. En fait, je change, moi, parce que ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à la saison dernière.
Navas.
C'est Keylor Navas, parce qu'il a pas beaucoup d'arrêts à faire. Là, il y a une frappe, notamment de Santa Maria en première, qui est pas non plus hyper compliquée à capter, mais il l'arrête avec une sérénité et ça transpire sur toute la défense. Donc ça, c'est la vraie nouveauté de cette année. C'est Keylor Navas, le Paris Saint-Germain a enfin un bon gardien après l'arnaque Alphonse Areola.
Attention, je vais donner un jugement un peu hâtif, mais j'ai le sentiment, je regardais le match cet après-midi et je vois les absents également. On va parler d'Mbappé dans un instant. Paris n'a jamais eu un effectif aussi profond, aussi cohérent également, je trouve, hein, depuis que le Qatar est arrivé.
Il y a un bémol pour moi.
Donc des remplaçants aux latéraux peut-être.
Je mets un bémol, Nico, on en a parlé sur la première période. Certes, j'ai trouvé une grande fluidité sur le plan offensif, mais j'ai trouvé que sur le plan défensif, c'était un peu les portes ouvertes quand même. Hein. Angers s'est créé moult situations qui auraient mérité au moins un but. Je repense à cette occasion d'Aloui où il se retrouve seul face à Navas. J'ai trouvé que sur la première période, il y avait quand même... Et j'ai vu Thiago Silva s'énerver à maintes reprises, ce qui veut dire que il y avait quand même un peu de largesse sur le plan
et
défensif.
Et qui était un peu à la rue? qui est un peu à la rue sur les situations angevines. C'est encore Presnel qui me permet.
David de 32-16, supporter parisien, nous a appelé.
Mais tout ça s'est rétabli.
Salut David.
Oui. Ils ont fait une très bonne deuxième.
Salut David.
Salut David. Bon, tu vas pas nous contredire.
Oui, salut. Hein. Bonjour à tous.
C'était un match abouti du PSG. Voilà,
j'ai écouté attentivement un petit peu toutes les remarques que vous pouvez faire. Bon, moi, ce que je retiens sur ce match-là, c'est sûr que là, tout à l'heure, vous parliez du but de Sarabia ou. Il y a une erreur défensive des Angevins qui reculent, qui regardent, etc. Mais bon, j'ai presque envie de vous dire, s'il n'y a pas d'erreur défensive, il n'y a jamais de but dans un match. Donc voilà, je pense que la prestation du Paris Saint-Germain dans l'ensemble sur ce match-là, il a été très abouti, il a été bon. Après, tout n'a pas été parfait non plus. On parle des petites largesses défensives qu'il y a. Bon, après, vous savez très bien, hein, Paris mène 1-0, 2-0... ils savent que devant, on a quand même une puissance, même s'il n'y a pas encore Kylian Mbappé qui est là, mais on a quand même une puissance de feu quand même qui est voilà, si jamais ils appuient sur l'accélérateur, ils peuvent faire mal à tout moment. Voilà, donc je dirais que par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à aujourd'hui, j'ai envie de dire que la semaine dernière, quand ils ont battu Bordeaux 1-0, tout le monde disait oui, ils ont vraiment pas fait, ils ont un match moyennasse, il a fallu attendre l'entrée de Kylian Mbappé. Là, on gagne 4-0, mais il y a toujours des petites choses à redire. Mais il y aura toujours des choses à redire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que là, faut rester calme, faut rester serein. On est au mois de début octobre. On n'est pas encore. Voilà,
au printemps.
La saison, pour moi, elle n'est pas encore véritablement.
C'est le printemps. C'est le printemps, le début de ta saison.
Voilà, c'est le printemps. Pour l'instant, pour moi, l'équipe, elle est en rodage.
Pensez printemps, les amis.
Dans l'équipe. Il y en a un qui a intérêt à faire très attention dans ses choix. Pour l'instant, il a rectifié le tir. C'est Thomas Tuchel.
Exactement.
Parce que ce qu'il a fait contre Reims, c'est inadmissible. Hein, c'est pas une équipe qui nous a mis là. Il manquait plus que le jardinier à mettre avant-centre aussi pendant qu'il y était. C'était du n'importe quoi. C'est quand même des joueurs professionnels. Qu'ils leur mettent certains au repos. Je le conçois, qu'il y ait des blessés, je le conçois également. Mais enfin bon, l'équipe qu'il a mis face à Reims, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, bon, ça c'est le petit truc qu'il y a sur Tuchel. Il a rectifié le tir, c'est bien. Moi je dis que Tuchel, entre ses mains là, il a une Ferrari. Mais Leonardo est revenu.
Je pense aussi.
Il a la patte Léo sur le groupe. On a, comme vous l'avez si bien dit, moi ça fait déjà des années que je le dis, on a un vrai gardien de but, parce que franchement. Il avait beau être titi parisien, comme on le dit, j'avais aucune confiance en
lui. Bien sûr, exactement.
C'était une catastrophe. Là,
et voilà, t'as raison, David.
Quand les blessés vont revenir, il y aura une véritable profondeur de banc qu'on n'a pas encore tout à fait actuellement parce qu'il y a trop de blessés. Mais ceci étant, c'est pas grave. Je préfère avoir des blessés là au mois d'octobre, qu'ils soient tous à l'infirmerie au mois de
février, mars, printemps.
Là, ça va vraiment les choses sérieuses.
Exactement. Exactement. Merci, David.
T'as tout à fait raison. Salut,
voilà,
David.
Je vous en prie.
Bonne soirée à toi, merci d'avoir appelé.
Bonne saison aussi.
C'est info aussi, Loïc Tanzi qui suit le PSG, reporter à RMC Sport, qui nous dit que Leonardo va rencontrer la Fédération Française de Football pour évoquer le cas Kylian Mbappé qui a été appelé malgré sa légère rechute, hein, ce problème de cicatrice.
Ah, tu penses?
Ils vont mettre un coup de pression, en tout cas sûrement auprès de la Fédération Française pour dire attendez les gars, nous on fait pas jouer, n'allez pas le faire jouer, garçon.
Pourquoi?
Attention.
Mais moi je veux qu'il y aille. Attends, il y a PSG Marseille à la fin du mois. Moi, si on peut l'épuiser, il y a pas de souci. Va jouer le match contre les bouchers turcs.
Si tu veux battre le PSG sur des blessures, ça ne tient qu'à toi.
Au point où on en est, bien sûr que on prend n'importe quoi comme victoire contre le Paris Saint-Germain maintenant. Mais faut être lucide. Hein.
Il faut comprendre le sélectionneur et la Fédé. T'as les deux matchs les plus importants qui arrivent aussi dans l'optique de la qualification. C'est dommage de te priver quand même d'un de tes meilleurs joueurs. Donc,
dans quel état? Dans quel état?
Ah oui, dans quel état de forme? Après, c'est toute la difficulté quand les joueurs partent en sélection. Bah, le club défend en priorité ses intérêts, et la fédération.
J'ai rêvé que des dirigeants illois aient mettre la pression sur la fédération polonaise pour toi.
C'est déjà arrivé, oui.
Ah oui.
Pas à Lille, mais à Bordeaux, oui, c'est déjà arrivé.
Et vous vous rendez compte, nous au moins, on fait pas comme les autres gros malins là, on n'organise pas de Coupe du Monde en même temps que le championnat. Ça c'est d'un ridicule.
Non mais c'est même pas une pression, c'est qu'il faut faire ça en bonne intelligence.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le club doit se mettre en contact, Deschamps doit peut-être se mettre en contact avec Leonardo ou Tourelle, essayer de voir comment on peut faire au mieux pour préserver les gamins.
La fédération va voir, ils ont un vrai staff médical à la pointe qui vont voir comment quel est l'état de forme de Kylian Mbappé. On vient dans un instant. Ça y est, elles sont là, les drôles de dames. Fred Hermel, Simone Rovera, Julien Laurence pour évoquer leur gros match Juve-Inter demain. Le réveil d'Eden Hazard. au Real Madrid et également avec Julien Laurence, notamment la blessure du Gyökeres. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, l'afterfoot jusqu'à minuit, bien sûr, c'est l'heure des drôles de dames et j'accueille avec chaleur Julien Laurence et Fred Armel. Bonsoir messieurs.
Hola, salut chicos.
Salut les gars. Fred, tu restes avec nous, mais tu peux quand même te mêler à la page foot anglais Premier League, l'autre plus grand championnat du monde.
Hein, on est d'accord, le plus grand championnat.
Julien, 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 tu nous as écouté hier?
Hier, non, j'ai pas écouté hier.
Fred, il a quand même dit que la Liga, c'était bien au-dessus en termes d'intensité que la Première Ligue, quand même.
On va pas faire un débat là-dessus,
après,
les gars.
Je veux rien dire. En termes d'intensité.
Après, démerdez-vous avec ça, les gars.
Mais non, mais il a pas compris. Julien, ils essayent de nous séparer, tu sais.
Ouais, je sais, mais je t'aimerais toujours, Fred, tu sais.
Ça dit, je crois que tu l'as un peu dit, Fred.
Moi, je veux. On a rien dit pour pas stopper le débat, mais c'était quand même.
La qualité technique, je veux bien. L'intensité, un peu moins, quand même.
Là, je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est
Techniquement,
la Liga est supérieure. L'intensité, effectivement, c'est
une intensité plus en Angleterre.
Mais non, mais parce que je disais qu'Hazard, en fait, mais t'es d'accord avec moi. Hazard à Chelsea se baladait techniquement et face à d'autres équipes anglaises, la technique suffisait. Mais en Espagne, il faut mettre de l'intensité en plus de la technique.
Voilà. Allez,
c'est un cher. Tombe toujours sous ses pattes.
Mais bon, je vais pas grappiller ton temps, mon cher Julien.
Julien,
vous êtes trop bon,
très apaisé, Fred. Ouais. Julien, l'info du jour en Angleterre, en tout cas vue de France, c'est la blessure du Gyökeres, blessure grave, luxation du coude. Troisième minute sur le terrain de Brighton.
Brighton,
exactement 3-0. L'image est spectaculaire, elle est même terrible. Donne-nous les infos, tiens.
Alors on a eu peur, hein, très peur pour Hugo Lloris. On a pensé qu'il s'était même cassé le bras ou qu'il y avait un problème peut-être un petit peu plus important que sa luxation du coude. Finalement, il a passé d'abord des radios dans une clinique à Brighton qui n'a donc décelé aucune fracture. C'était déjà une bonne nouvelle pour lui. Donc c'était simplement une luxation. Il va venir à Paris pour aller à Clairefontaine voir le docteur de l'équipe de France. Ils vont faire une IRM lundi matin pour savoir sa durée exacte d'indisponibilité. En général, ça devrait être au moins 2 mois out pour lui. Minimum. Et puis après, peut-être aller jusqu'à 3 ou 4 mois. Mais ça aurait pu être bien pire s'il s'était complètement cassé le bras, voire même à plusieurs endroits.
Bah, le coup, c'est 6 mois hein, si tu te le casses. Mais là, 2 mois, ça me semble optimiste, hein, Julien.
Non, deux mois minimum. Je sais pas. Ouais. Je vois Fabien Lemoine. J'avais regardé un petit peu. Fabien Lemoine avait eu la même blessure. C'était entre 4 et 6 semaines, je crois qu'il était indisponible. Après, ça dépendra aussi de la gravité de la luxation en elle-même. Et il est pas gardien non plus. Tu as raison. Donc, ils prendront toutes les précautions. Mais s'il peut être indisponible pendant 3 mois, il aura limité quand même beaucoup les dégâts par rapport à ce qu'on a cru au début.
Évidemment, il est forfait pour l'équipe de France. Mac Maignan a été appelé le gardien lillois pour le suppléer. C'est une drôle de période pour Lloris, Julien, quand même, hein, parce que bon, ça n'a rien à voir, effectivement, une blessure et les performances sportives. Mais il a vécu une semaine compliquée entre sa bourde la semaine dernière, le week-end en Première Ligue, les 7 buts qu'il encaisse en Ligue des Champions face au Bayern. Et même sur cette action où il se blesse, Julien, on peut discuter de sa décision, en tout cas.
Oui, enfin, c'est même pas on peut discuter. C'est une grosse erreur de sa part sur une frappe anodine qu'il va chercher en l'air, il retombe, il glisse en fait un petit peu en arrière, où il est projeté en arrière, il lâche le ballon et Neil Maupay, l'ancien joueur de Nice et de Saint-Etienne, n'a plus qu'à le pousser de la tête dans le but. Et après, quand il retombe, c'est là où il se fait sa luxation du coude. Donc c'était vraiment un début de match cauchemardesque pour lui, et comme tu l'as dit, une semaine cauchemardesque avec l'erreur contre Southampton, qui au moins lors de ce match-là n'avait pas coûté de points à son équipe, mais il y avait quand même cette bourde, les 7 buts. Contre le Bayern, et puis encore l'humiliation d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que Tottenham, ils arrivent à Brighton aujourd'hui dans une situation compliquée après la défaite, l'humiliation contre le Bayern. Psychologiquement, mentalement, ils sont très fragiles, et au bout de 3 minutes, ils prennent ce but et ils perdent leur gardien. Et un de leurs leaders de vestiaire est sur le terrain. Donc c'est vrai que tu pouvais pas avoir pire début de match que celui d'aujourd'hui, et puis après la suite a confirmé toutes les faiblesses, tous les problèmes qu'on a vus depuis le début de la saison en termes d'équipe, où il ne joue pas du tout en équipe, il n'y a pas d'état d'esprit dans cette équipe, il n'y a aucun esprit de...
Qu'est-ce que c'est de rien lâcher, de continuer. Julien, en fait, tu passes de finaliste avec des champions à une équipe moribonde qui a du mal à se trouver sans âme, en tout cas.
C'est pas une fin de cycle, Julien ?
Il y a peut-être ça, Joe, c'est vrai. Faut se rappeler aussi que Pochettino, après la finale de la Ligue des Champions, dit si j'avais gagné, si on avait gagné la finale de la Ligue des Champions, je pense que je serais parti. Ça veut dire que déjà dans sa tête,
ça aurait dû être le contraire.
Il était 50% déjà parti, puisqu'il avait une chance sur deux qu'il gagne la finale, donc une chance pour deux qu'il s'en aille, de toute façon. Donc, dans sa tête, il était déjà 50% parti. Et je pense que c'est un mauvais message envoyé aux joueurs qui, eux, vont se dire, s'il voulait déjà pas trop être là cette saison et qu'il est encore là, c'est qu'il y a un problème. Eriksen, Vertonghen et Alderweireld voulaient eux aussi partir. Il leur reste un an de contrat, ils sont toujours là et ils n'ont pas pu partir. Et je pense que la finale, l'épopée européenne, aussi incroyable qu'elle a été, parce qu'il y a quand même trois miracles du dernier match de la phase de poule contre Manchester City et contre l'Ajax. Ça a été l'arbre qui a masqué la forêt, c'est-à-dire c'est une équipe qui avait quand même des difficultés la saison dernière, qui a fini troisième en Première Ligue de manière assez miraculeuse encore une fois, et qui finalement n'a pas finalement réparé les problèmes qu'elle avait eu la saison dernière pour cette saison-là.
Et qui aujourd'hui est huitième de Première Ligue avec un match en plus que pas mal de concurrents juste devant Chelsea, un match en moins. United également onzième avec un match en moins. Jonathan.
Non. Si j'ai une petite question très rapide pour Julien. Neil Mopé, donc troisième but cette saison pour un joueur que en France on nous disait il est trop léger physiquement, il va jamais s'imposer en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur son intégration à la Première Ligue?
Ouais, ça s'est très bien passé. Il avait fait une excellente saison la saison dernière en Championship. Tu l'avais vu notamment contre Leeds.
Leeds.
Exactement. Où il avait été très très bon. On se posait la question. On en avait parlé cet été. Comment est-ce qu'il allait s'adapter à la Première Ligue? Est-ce qu'il allait mettre du temps ou pas? Il a marqué tout de suite. Après, Brighton, c'est une équipe qui a un petit peu mal à gagner. Ils avaient gagné qu'un seul de leurs 16 derniers matchs en Première Ligue. Donc la victoire d'aujourd'hui, ça lui a fait du bien. Mais c'est vrai que dans ce collectif-là, c'est une équipe qui joue au ballon, qui est très posé, qui joue vraiment un football assez attractif, et pour lui ça lui convient bien, et je pense qu'il va marquer à mon avis une petite dizaine de buts cette saison, et il aura fait une très bonne saison.
J'espère que les clubs de Ligue 1 vont bien le revêtir.
L'ancien Niçois qui avait démarré à même pas 17 ans je crois en Ligue 1.
16 ans
tout à fait,
avec le GC Nice. Exactement. Tiens, un mot sur Liverpool, parce que c'est spectaculaire. Bon, c'était poussif, il s'impose à la 94e Liverpool, grâce à un but de Milner. 8 matchs, 8 victoires, 24 points sur 24 possibles. 17 victoires consécutives, Ludo, avec l'an dernier.
C'est incroyable.
Seul City a fait mieux dans l'histoire avec 18 victoires.
Klopp a remplacé Ferguson, c'est le Kloppy time, c'est plus Fergie time. mais ils sont tellement généreux, ils donnent tellement qu'ils sont forcément récompensés de tous leurs efforts. Et même quand ils galèrent, comme c'était le cas cet après-midi, où finalement, je sais pas ce que t'en as pensé, Leicester, Julien, mais bon, c'était pas forcément immérité que Leicester puisse revenir dans ce match-là.
Non, t'as raison, c'est vrai. Même si Liverpool a eu des occasions aussi pour se mettre à l'abri, ils auraient pu facilement mener 2-0 à un moment. Ils l'ont pas fait, et Leicester a mérité de revenir dans le match.
Mais ils ont toujours ce supplément d'âme qui fait qu'ils n'abandonnent jamais, ils tentent toujours, ils attaquent toujours. Bah, ils sont généreux dans tout ce qu'ils font, et ils sont récompensés à juste titre. C'est aussi simple que ça.
Julien, est-ce que t'as pas l'impression que les trois de devant, Mané, Salah, Firmino, qui ont joué respectivement la CAN et la Copa América, t'as pas l'impression que c'est peut-être un petit peu émoussé physiquement par rapport à l'an dernier, qu'ils sont moins tranchants?
Si, c'est sûr, ils le sont parfois. Et n'oublie pas non plus que Salah et Mané n'ont pas eu de sélection internationale lors de la dernière trêve internationale, puisqu'il n'y avait pas de match pour les sélections africaines. Donc ils ont pu se reposer pendant ces 15 jours-là, contrairement aux Européens ou aux Sud-Américains, etc. Mais c'est vrai que ça commence à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, Ludo a raison. On les a vus émousser après la victoire contre le RB Salzburg en Ligue des Champions mercredi soir, ou mardi ou mercredi soir. Et c'est vrai que ça commence à faire. Le problème, c'est qu'à part Divock Origi, qui a quand même connu la saison de sa vie la saison dernière, c'est compliqué de faire un peu plus tourner dans les matchs comme ça.
Lalana,
il le voit plus comme un milieu de terrain maintenant.
Okay.
Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et le prochain match, c'est Manchester United à Old Trafford, le week-end après la trêve internationale, et qui pourrait donc mettre un terme à ses 17 victoires d'affilée contre sûrement son plus gros ennemi.
Il va falloir que Manchester aussi se mobilise.
Julien, juste deux secondes, j'aimerais parler du cas de Nico Pepe. J'ai l'impression que tout le monde lui tombe dessus assez rapidement. Trouve pas que c'est un peu exagéré? Il est si mauvais. Il est si mauvais que ça?
Non, il est pas si mauvais que ça, mais c'est très très anglais. Et je lui ai dit à Nico, je l'ai dit à ses agents, à son entourage, c'est typiquement anglais. C'est pour tout le monde pareil, pas que Nicolas Pepe ou pas qu'un joueur qui vient de la Ligue 1 ou pas un joueur français.
Même Martin Keown, j'ai trouvé. je l'ai trouvé un peu dur dans ses propos quand même, lui qui a été
totalement, complètement.
Qui sait quand même
Roy Keane l'autre jour l'a massacré à la télévision sur Sky aussi.
Ne dites jamais de mal de Roy Keane.
Non, mais c'est vrai, mais c'est très anglais, Ludo. C'est comme ça. Il faut qu'il s'y fasse. Malheureusement, c'est pour tout le monde pareil. Thierry Henry, Patrick Vieira avant lui à Arsenal, Robert Pires, n'en parlons même pas. C'est comme ça. Il va falloir qu'il fasse abstraction de cette vibe un petit peu négative autour de lui, parce que les gens attendent beaucoup, tu vois, et que tout de suite c'est facile.
Qu'est-ce qui lui manque actuellement ?
C'est pas un problème de système.
Non, pas forcément, parce que il joue sur son côté droit, il est bien, mais c'est vrai que ça va plus vite, c'est beaucoup plus physique. Il a du mal encore à enchaîner les matchs, mais même dans un même match, les efforts dans un même match, parce que ça va très très vite. Je pensais qu'il allait débuter jeudi soir contre le Standard en Ligue Europa, parce que c'était pour moi le match parfait pour lui redonner un peu confiance, tu vois, qui marque un but, voire deux buts, une passe d'aise, deux passes d'aise. Il est rentré que les 25 dernières minutes, et puis ça a été un petit peu brouillon, parce qu'à ce moment-là du match, c'était brouillon de toute façon. Arsenal avait déjà fait la différence. On verra demain contre Bournemouth, mais c'est vrai qu'il lui faut juste il lui faut juste une performance, tu vois, un match référence.
Ouais.
Voilà, et après ça va le lancer.
Julien, avant de te laisser, un mot sur Olivier Giroud qui serait hors du groupe pour le match de Chelsea demain à Southampton.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Les clubs anglais ne communiquent pas sur les groupes emmenés par les entraîneurs, donc on sait jamais à l'avance. Mais effectivement, visiblement, c'est la tendance. Franck Lampard a rappelé l'autre jour qu'il lui faisait confiance, qu'il allait avoir besoin de lui, qu'il comptait sur lui, que c'était un grand professionnel, etc. C'est quand même un petit peu inquiétant maintenant. Il a joué que 17 minutes, je crois.
Ouais.
En championnat, hein, depuis le début de la saison, il avait joué en Supercoupe d'Europe et marqué d'ailleurs.
Ouais, sauf que là, s'il glisse hors du groupe, c'est encore une nouvelle étape qui est franchie, Julien, là.
Pour l'instant, devant lui, c'est Tammy Abraham et Michy Batshuayi, qui étaient titulaires, notamment dans le match de Coupe de la Ligue.
Non, mais, on va rappeler, il y a l'Euro à la fin de l'année.
Ouais, effectivement. Et Deschamps l'a dit en conférence de presse. Il va falloir qu'il joue avec Chelsea pour avoir une chance. Il a même dit, ironisé, je vais appeler Franck Lampard pour qu'il fasse jouer Olivier Giroud. Visiblement, s'il l'a fait, ça ne marche pas. Julien?
Et d'ailleurs, Nico, non, juste pour finir là-dessus, rappelez-vous, hein, il avait quitté Arsenal pour aller à Chelsea en janvier 2018, avant la Coupe du Monde 2018, pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir aller au Mondial. Peut-être que cette fois encore, il devra malheureusement changer de club en janvier pour être sûr d'assurer sa place dans le groupe pour l'Euro l'été prochain.
Exactement. Il y a Marseille, Olivier Giroud, tiens, pourquoi pas. C'est un peu cher aussi.
Giroud Benedetto.
Merci. Merci Julien, excellente soirée à toi. Je rappelle sur le Championship également, que Lamouchi enchaîne avec Nottingham Forest, deuxième Championship.
Et que Leeds a perdu.
Et que Bielsa est un peu en difficulté.
Ouais,
mais attends,
Berardi s'est fait expulser à la 16e. Voilà, ils ont glissé au classement, mais ils restent à moins de 3 points de la tête. Ça va aller.
Fred Hermel, c'est le Hermel Time à présent. Beaucoup de choses à raconter, bien sûr, avec toi, Fred. Bon, déjà, je pense qu'Eden Hazard a écouté l'after. Ou sauf si tu l'as appelé après l'after pour lui dire, écoute, à Paris, il croit plus forcément en toi. Bah, il a marqué avec le Real, ils ont gagné.
Il y a la passe décisive pour Modric, qui est quand même très intelligente. C'est-à-dire qu'il le cherche bien, superbe frappe de Modric. Donc, c'est quand même un but, une passe décisive. Son premier but officiel, sa première passe décisive officielle sous le maillot blanc. Bon, c'est pas encore le très grand Hazard, mais au moins, il s'est passé quelque chose.
Il a été décisif.
Il avait dit en conférence de presse mardi en Ligue des Champions, il faut que je marque pour relancer la machine. Bon, voilà, il l'a fait pour le coup. Et le Real gagne 4-2 face à Grenade.
Ben oui, et c'était le premier contre le deuxième. Donc
c'est vrai.
C'était pas n'importe quoi comme match. Grenade qui est un promu, qui a quand même battu le Barça 2-0 il y a 3 semaines. Voilà, c'est une équipe qui est encore sur la dynamique de la montée et qui a enchaîné plusieurs, ils en étaient à 4 victoires. Non, c'est une équipe un peu dure à manier, et le Real a fait une très 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 bonne première période. Sauf qu'il y a toujours ces petits moments de blues.
Oh
de
non, 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 non. Le Real a fait le coup du siècle, Fred. Le PSG a fait le coup du siècle en récupérant Navas, qui est très bon, et en refourguant cette arnaque.
Oui, alors, on va rappeler les faits, Fred.
Le match était flagrant.
Je te laisse à tes propos.
Ouais, je trouve ça un peu excessif.
C'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien d'un niveau international. Et là, c'est pas un gardien qui a une
chance. Jonathan,
c'est un bon gardien de Ligue 1. C'est un bon gardien de Ligue 1.
Je te prierai de ne pas insulter une personne devant moi, voilà, merci.
Mais j'ai pas insulté le joueur. Je parle de la médiatisation et de la manière dont on parle et dont on nous vend. C'est un beau gardien de Ligue 1, mais c'est pas un gardien de niveau international, c'est tout.
Ok, doucement. Real 4-2 face à Grenade, c'est vrai, Fred, il y avait 3-0 pour le Real à la 61e. Ils sont
fait un peu plus. Et là, il y a une bourde d'Areola.
Voilà, vas-y, raconte-nous la bourde.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une passe en retrait, il la contrôle mal. Il y a un attaquant Gonzalez de Grenade qui s'apprête à prendre la balle, donc Il essaye de dégager, il touche le pied du joueur, donc il y a pénalty. Et à ce moment-là, Grenade était totalement en dehors du match. Et cette erreur d'Areola relance Grenade. Et le Real a ses lapsus dès qu'ils prennent un but. C'est ça le plus grand danger qu'on a chez les Madrilènes. C'est que souvent, quand ils prennent un but, ils ont une petite période où...
C'est ça.
C'est-à-dire que le coup sur la tête, il est un petit peu trop long. Et après, ils se prennent un autre but sur coup de pied arrêté. Bon, finalement, ils gagnent 4-2 et c'est assez logique avec une bonne entrée et un beau but de James Rodriguez en contre. Mais on est avec un Real Madrid qui n'est pas encore flamboyant, qui reste fragile, mais qui est quand même leader. Raison pour laquelle, quand j'ai posé la question à Zizou sur la petite bourde d'Areola, il a répondu avec le sourire, il était heureux, et il n'a pas fait toute une histoire du match d'Areola. Et Jonathan, tu vas écouter ce que dit l'entraîneur du Real Madrid, parce qu'on ne juge pas un joueur que sur une bourde.
Non mais, on écoute, je pense qu'on l'a eu plus que toi, Areola.
On écoute.
Il sait qu'il a fait une erreur, donc il n'y a pas besoin de rajouter. Je reste sur son match, moi, le match énorme qu'il a fait. Pas simplement le fait d'arrêter des buts, parce que bon, je pense qu'il n'a pas trop eu d'arrêt, mais par contre, il a beaucoup parlé à sa défense sur les coups de pied arrêtés. Il a été impressionnant. Il a fait ça naturellement. Je suis content pour lui. Je suis content parce que ça se passe bien. Il faut qu'on continue tous de la même façon.
Fred, vas-y Ludo. Fred, est-ce qu'il n'est pas en train de choisir son camp
Mais oui.
J'ai l'impression que avec Courtois, c'est en train de se tendre. Et que les louanges pour Areola j'ai l'impression ça va tourner.
Il veut deux gardiens compétitifs. Et le jour où il faudra changer, si Courtois, qui est, et je vous l'assure, encore le numéro 1 aujourd'hui.
Ah, tu penses qu'il est toujours numéro 1 là?
Il est toujours dans la tête. D'accord. De Zizou, il est toujours numéro 1. Mais c'est pas un dogme, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Areola sera meilleur que Courtois,
c'est pas prêt d'arriver.
Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ils sont enchantés. Et moi, je vous parle de choses de sources intérieures. Mm-hmm. Ils sont enchantés du comportement d'Areola à l'entraînement, du travail d'Areola, de ses performances, de la manière dont il joue. Et d'ailleurs, c'était très intéressant quand t'écoutais Zizou, parce que c'est vrai qu'Areola inspire, à part cette petite bourde, une sécurité dans le but madrilène qu'aujourd'hui Courtois, pour diverses raisons, n'inspire pas, parce que Courtois a quelques petits problèmes même d'intégration dans le vestiaire, parce qu'on sent bien qu'il n'est pas à son niveau.
Est-ce qu'il est heureux, ce garçon, à Madrid, sincèrement, au-delà du fait
il voulait revenir à Madrid parce que c'est son ex-femme habite ici, ses enfants habitent ici, donc il avait envie de revenir à Madrid coûte que coûte, mais au Real Madrid, on ne peut pas dire qu'il ait pour l'instant fait un match extraordinaire. Ça fait un an qu'il est là, on n'a pas encore vu le grand Courtois. Donc c'est vrai que le débat avec la petite bourde d'Areola va un petit peu retomber, mais Zidane, lui, mais c'est pour le gardien comme pour tous les postes. C'est-à-dire qu'il a 25 types à sa disposition, et Zizou va faire jouer les meilleurs.
Tout est ouvert.
Exactement. Areola, on l'a vu. On l'a vu en Ligue 1, on l'a vu jouer plein de fois. Ce que je veux dire, c'est que le problème d'Areola, c'est qu'il peut être bon pendant les 89 minutes et que souvent il fait des bourdes à des moments décisifs. Et ça, c'est le match du Real de cet après-midi. C'est symptomatique du gros défaut qu'il n'a jamais réussi à gommer depuis qu'il a été installé dans les cages du PSG.
C'est vrai, Fred, je rejoins un peu Jonathan là-dessus, c'est qu'il peut enchaîner 2-3 grosses perfs, même comme il l'a fait cette semaine en Ligue des Champions. Oui. Il sort un énorme arrêt qui change.
Ça change tout. Hein. Ça change peut-être même la qualification du Real. Hein.
Et qui permet le match nul au Real Madrid. Ce garçon-là, il te donne des perfs exceptionnels. Non,
même en bleu avec
les gars. Il gâche tout sur rien parfois.
Ouais. Il est là aussi pour progresser. En tout cas, moi, ce qu'on me dit de l'intérieur du vestiaire, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment sur une très très bonne dynamique. Et il est au Real pour progresser. Mais en plus, au PSG, il était numéro 1, il y avait une grosse pression. À Madrid, il a pas cette pression-là, parce que le numéro 1, c'est Courtois. Donc lui, il est venu pour rendre service. Et moi, on m'a même dit une phrase intéressante. On m'a dit, il est venu dans sa tête en acceptant son rôle. Il est venu à Madrid et dans sa tête, il accepte le rôle numéro 2. Ça veut pas dire qu'il est pas ambitieux. Mais il accepte son rôle de numéro 2. Et en fait, ça ne peut que s'améliorer pour lui. Et Fred, lui ne peut que s'améliorer.
Bah ça, Fred, vrai. Benzema buteur encore 6 buts cette saison. Combien de buteurs en Liga?
Mais Benzema, c'est...
Je savais en lançant qu'il allait commencer par...
C'est-à-dire que première occasion, mais le but de Benzema est génial. Mais ce qui est sublime, c'est l'extérieur gauche du pied gauche de Gareth Bale. Enfin, le centre de Gareth Bale extérieur.
C'est la plus belle passive que j'ai eue depuis longtemps.
Mais c'est absolument sublime. Karim, comme c'est aussi un attaquant numéro 9, renard des surfaces, il est très bien au deuxième poteau, il a plus qu'à, enfin, il pousse bien le ballon, etc.
Encore faut-il y être.
Ah ben c'est ça.
Encore faut-il y être au deuxième poteau.
Et ben exactement. Voilà. Et attendre et savoir qui est ton partenaire et qu'il est capable de faire cette passe à ce moment-là. Donc ça c'est. Mais Bale. Il a toujours des petits problèmes physiques. Alors, pourquoi il n'a pas joué contre Bruges? Parce que Bale ne peut pas jouer 2 matchs par semaine. Voilà. Ça, je vous le dis. Il ne peut pas jouer 2 matchs par semaine.
Il a golf de...
Non, mais sérieusement, il a un problème à l'adducteur ou il a des problèmes de récupération. Là aussi, je vous donne de l'info.
Ça, c'est l'hygiène de vie des adducteurs en général, Fred. Hein, je ne sais pas.
Oui, mais en tout cas, sincèrement, Bale, on peut lui reprocher plein de choses. Mais on peut pas lui dire qu'il sort, etc. Non. Qu'il ait à un moment pas été concentré sur le football, ça on le sait. Mais après, on peut pas dire que ce soit un type qui n'ait pas d'hygiène de vie.
D'accord.
Mais il y a un vrai problème avec lui, c'est que c'est un joueur fragile, on le sait tous, et que Zidane en prend vraiment soin. Bale, c'est un match par semaine, il a encore un petit coup là aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand il fait des passes comme ça, Mais c'était d'une beauté
absolue. Il le fait avec une élégance aussi dans l'attitude également. Tu vois le port de.
Oui, et puis il est bien, il travaille beaucoup. Hein.
Voilà. Voilà pour le Real Madrid. L'air de rien, leader avec 4 points d'avance, Fred, avant le match de l'Atlético. Hein. Demain, le Barça.
Valladolid demain.
Ouais, et le Barça qui reçoit Séville aussi.
Ah, ça va être un beau match parce que Séville a gagné contre l'Apoel Nicosie jeudi en Ligue Europa avec une équipe B. L'équipe A s'est reposée pendant une semaine pour un déplacement qui annonce un superbe match parce que le Barça qui va un petit peu mieux, bon, qui a quand même beaucoup souffert face à l'Inter, mais qui a quand même gagné face à l'Inter. C'est vrai que Messi a l'air un petit peu mieux physiquement. Suarez a marqué un doublé. On attend toujours beaucoup de choses de Griezmann. Donc c'est quand même un match très intéressant. Et puis la revanche pour Julen Lopetegui, même si lui ne veut pas aborder ce match de cette manière, il s'est fait virer il y a un an après une bannita prise avec le Real au Camp Nou. Donc il y a plein d'histoires autour de cette rencontre.
Merci Fred, excellente soirée à toi. Bonne soirée à Madrid, bien sûr. On vient dans un instant pour la fin de l'after. Simone Rovera arrive pour nous parler de la victoire du Milan. Oh, elle fait du bien celle-là.
Et les compos.
Elle fait du bien Gianpaolo. Et les compos probables de Inter Milan Juve. Demain, gros match en Serie A. Tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Nicolas Jamain
avec Jonathan Macardi, Ludovico Bragnac. Dernière ligne droite, ces quelques minutes sont réservées à un homme, un Italien,
ouais.
Un homme qu'on adore dans l'After. Il s'appelle Simone, son prénom Rovera, c'est son nom. Ciao. Bravo. Simone.
Ciao, bonsoir.
Bonsoir Simone. Quelle énergie. Simone, ne perdons pas de temps, on a préparé l'émission ensemble, en tout cas l'actu Serie A. Bouffer l'oxygène pour le Milan. Victorieux 2-1 ce soir sur la pelouse de Genoa. Hernandez et Théo Hernandez et Kessié.
Oui, et je commence avec mon opinion quand même, parce qu'au-delà du match, il y a ce que j'ai vu. Et si j'étais un dirigeant du Milan, quand même, je ne me ferais pas tromper par les résultats. Et je changerais d'entraîneur.
Ah, Gianpaolo out.
Mais pour moi, le Milan a été d'une pauvreté technique en première mi-temps incroyable. Les choix de Gianpaolo ont été des erreurs. Il a dû se rattraper en deuxième mi-temps avec l'entrée en jeu de Paqueta et Leao. Et moi, je ne comprends pas comment Gianpaolo peut laisser Leao sur le banc de touche pour 45 minutes. Mais même 5 minutes sur le banc de touche serait 5 minutes de trop. Aujourd'hui, c'est les joueurs plus décisifs du Milan, avec sa qualité, ses appels, sa force, sa conduite des balles, ses contres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Milan qui s'en sort très, 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 très bien. Premier but de Genoa, avec une boulette incroyable de Reina, qui a été titularisé sur les derniers instants pour un problème physique de Donnarumma dans l'échauffement. Et dans la deuxième mi-temps, entrée de Paqueta, entrée de Léa, au Milan qui a 15 minutes de qualité, 15 minutes, pas plus. Et il y a l'égalisation de Théo Hernandez, premier but pour lui qui devient quand même un indiscutable titulaire sur la couloir gauche, et un pénalty transformé par Kessié pour le 2-1. Et à la 93e minute, pénalty pour Genoa. Et Reina, après une énorme boulette en la première mi-temps, se rattrape et arrête le pénalty et sauve Gianpaolo, qui pour moi, c'est malheureusement pas une bonne nouvelle pour Milan, parce que c'était l'occasion.
Une défaite aurait pu l'éjecter du Milan. Attends, faut qu'on enchaîne sur Inter, désolé Ludo, Inter-Juve, c'est le gros match, le derby d'Italie, comme on l'appelle, entre les deux leaders, justement, l'Inter est devant, 20h45. Les infos compos Juve, notamment, surtout.
Attention, hein, les bonnes cette fois, Simonet.
sont toujours bonnes, les miennes. Et la Juve serait au 99% la Juve habituelle, c'est-à-dire un 4-1-2 avec Ramsey derrière Higuain et Ronaldo. Et pour le reste, les milieux classiques, Matuidi, Pjanic, Khedira. Et la défense qu'on a vue, même face au Leverkusen. Donc, Cuadrado à droite. On rappelle, Deschilio et Danilo sont blessés. Bonucci, De Ligt et Alexandro. Donc, pas des surprises. Et il ne devrait pas avoir des surprises, même pour l'Inter, où il y a un seul doute. Sur le couloir droit entre Candreva et D'Ambrosio, je pense que c'est D'Ambrosio si je connais un peu Antonio Conte, et pour le reste c'est Godin, De Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah à côté de D'Ambrosio et Martinez à côté de Lukaku. On rappelle que Sanchez est suspendu.
Ton prono vite, Simonet.
En 5 secondes ton prono, Simonet.
Pour moi, ça va être un match nul à la fin, un partout, deux partout, mais ça va être un match très très tendu. Aujourd'hui, Sarri a dit, pour moi, ces matchs à 0% d'influence dans la lutte pour les titres.
Sauf que s'il perd, il
c'est totalement faux.
Merci Simonet, excellente soirée à toi, messieurs. C'est terminé pour la dernière info. Maradona a gagné un match, ça y est, avec son club. Et la casquette du Venezuela sur la tête, sur la pelouse de Godoy Cruz. Il a fallu Godoy Cruz
pour qu'il gagne.
Ciao Simonet. Ciao Jonathan.
Ouais. Rendez-vous ce soir. RMC Sport.
Bye bye.
Sania Whitaker.
Excellente soirée. Bye bye.
RMC. The way things are isn't the way they have to be.
But knowing what to challenge and how to change it isn't always clear.
That's why independent journalism has never mattered more.
When we are free to follow any lead
and question any authority,
we can confront the status quo,
uncover vital alternatives,
and bring clarity to the world's most complex issues.
We can help our readers understand the world.
So together we can fight for a better one. Hope is power.
And with your support,
you'll always find it
at The Guardian.